Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Lorsqu'on débute des études de droit, les professeurs répètent souvent aux étudiants que le droit est absolument partout, dans les grands événements comme dans la vie quotidienne. Et puisqu'il est partout, pourquoi ne pas l'étudier aussi dans le cinéma et les bandes dessinées ? Bonne nouvelle, puisque Serge Sure l'a fait. Ce professeur de droit international, qui est un grand cinéphile, nous offre une belle occasion de redécouvrir des chefs-d'œuvre de la bande dessinée et du cinéma dans son dernier livre, Des images qui parlent. Dedans, on y découvre Tintin, Lucky Luke et les films de la Nouvelle Vague, comme on ne les a jamais vus, sous le prisme du droit. Que nous apprennent les images de films et de BD sur le droit et la société? Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en compagnie de cet auteur. Serge Sure, bonjour.
Bonjour.
Merci de participer à l'entretien de la semaine. Alors, vous avez été élu en 2021 à l'Académie des sciences morales et politiques. Vous enseignez le droit international à l'Université Panthéon-Assas et vous avez publié ce livre, donc, Des images qui parlent, avec en couverture une image en noir et blanc tirée du film Plein soleil, sur laquelle on voit un Alain Delon au sommet. Vous nous expliquerez tout à l'heure quel est le lien entre cet acteur et le droit. Mais pour commencer, quelques mots donc sur ce livre, la démarche derrière ce livre. Vous mêlez vos deux passions, qui sont donc le droit et les relations internationales, et puis le cinéma et la BD. Un choix finalement assez étonnant, puisque vous convoquez deux choses qui, de prime abord, sont assez opposées, avec d'un côté un cinéma qui exalte, qui enivre, qui passionne, et de l'autre côté, le droit et son univers très rationaliste, qui modère, qui interdit. C'est assez surprenant comme association.
Oui, mais écoutez, le droit comme le cinéma ou comme la bande dessinée sont des catégories de l'imaginaire. Parce que le droit, c'est un petit peu l'image qu'une société veut donner d'elle-même. C'est la projection de l'idéal qu'elle se donne d'elle-même, puisqu'elle se rationalise, elle s'organise par des normes juridiques. Et puis le cinéma va représenter, les deux sont des miroirs en quelque sorte, et des miroirs déformants. Parce que le droit déforme d'une façon rationnelle et d'une façon volontaire, alors que le cinéma exprime, lui, davantage des émotions, exprime davantage une certaine forme de déraison. Mais en même temps, il les incorpore, il incorpore les normes et il les représente. Et c'est pourquoi, par exemple, j'ai consacré un texte dans cet ouvrage à la manière dont le droit international était vu par le cinéma. Et d'ailleurs, on constate que ce sont plutôt les transgressions et les violations du droit qui sont analysées que le droit lui-même. Mais à partir du moment où vous analysez les transgressions, vous analysez aussi les normes, parce que les transgressions renvoient aux normes. Et dans tout cet ouvrage, on voit la société comme elle est, et le droit la présente comme elle devrait être. Et donc il y a cette confrontation, si je puis dire, pour rappeler nos cours de lycée, entre Corneille et Racine. Le monde tel qu'il, ou l'individu tel qu'il devrait être, et puis l'individu tel qu'il est. Et donc c'est cette dichotomie, ce rapport, ou cette tragédie d'ailleurs des rapports, que le livre décline en quelque sorte sur différents registres, sur des registres parfois de droit interne et parfois sur des registres de droit international.
Alors ce n'est pas votre premier essai sur le sujet, vous aviez déjà publié il y a une quinzaine d'années un livre qui s'appelle « Plaisir du cinéma, le monde et ses miroirs ». J'ai lu quelque part que vous aviez l'habitude de voir un film par jour, c'est vrai ?
Oui, en moyenne, oui. Il m'arrive parfois d'en voir deux ou trois dans la journée, puis parfois de ne pas en voir. Mais enfin, grosso modo, oui, ça peut. Mais c'est plus vrai, enfin c'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'il faut bien dire que le cinéma, malheureusement, qui était le grand art du XXe siècle, est aujourd'hui un petit peu à l'agonie. Et ce qui l'a remplacé, ce sont les séries télévisées. Et les séries télévisées, elles passent sur un écran différent, elles ont un rythme différent, elles permettent de développer davantage des caractères, des thématiques, des intrigues, mais elles ne sont pas enfermées dans ce cadre d'1h30 ou de 2h qui est celui courant du cinéma. Mais en même temps, si vous voulez, les séries, ça rappelle un petit peu le chewing-gum, Hollywood chewing-gum.
C'est-à-dire
parce que ça perd son goût progressivement, ça se détend. inquiétant et ça perd son goût, ça devient insipide. Et en général, les séries n'ont pas de conclusion parce qu'elles durent le temps qu'elles sont populaires et quand elles sont plus populaires, on voit bien qu'au bout de la cinquième, sixième saison, on tire à la ligne et elles se perdent dans les sables. Alors que le cinéma, lui, il impose dans son cadre contraint, voilà, impose
comme le droit,
comme le droit d'une certaine façon. Il impose, il rappelle les règles de la tragédie classique, c'est-à-dire unité de temps, unité d'action, unité de lieu, et voilà, il resserre tout cela. Donc, il est plus prégnant d'une certaine façon sur le spectateur que les séries. En même temps, il a une dimension un peu paranoïaque parce que dans le cinéma, tout doit faire sens. Tout doit avoir un sens. Et donc, chaque film est un complot, en quelque sorte.
On va reparler des séries télé dans un instant, mais il n'y a pas que les séries télé, il y a aussi la bande dessinée.
La bande dessinée.
Et alors, contrairement à votre précédent ouvrage où vous ne parliez pas de bande dessinée, là, vous avez inclus la bande dessinée. Pourquoi intégrer ce nouveau format ?
Alors, vous avez raison, mais le précédent éditeur ne voulait pas de bande dessinée, il voulait uniquement du cinéma. Moi, je pense qu'il y a des liens assez étroits entre le cinéma et la bande dessinée, et surtout entre le cinéma muet et la bande dessinée. Au fond, la bande dessinée actuelle, mais moi, je parle surtout de la grande bande dessinée classique des années 50, 60, celle de Franquin, celle de Hergé, bien sûr.
Avec Tintin.
Celle de Maurice, qui sont les grands maîtres de la BD franco-belge, qui ont donné ces lettres de noblesse à ce genre, ils ont beaucoup à voir avec le cinéma muet. Et on voit bien que dans leur cadrage, dans leur découpage, ils s'inspirent du cinéma muet. Et en même temps, aujourd'hui, il y a un effet de rétroaction. C'est-à-dire que dans les grands films des années 80, ou même des années 60, on a vu l'influence de la BD sur le cinéma. Par exemple, un film comme L'Homme de Rio de Philippe de Broca, bah, il dérive directement de Tintin.
Alors justement, Tintin, je voulais en parler, puisque vous parlez énormément des aventures de Tintin. Pourquoi vous avez choisi ce personnage ? Est-ce que c'est parce que tout le monde le connaît, c'est l'évidence ? Ou alors la BD était un cas d'étude qui se prêtait particulièrement bien à la réflexion géopolitique ?
Alors écoutez, Tintin, c'est des aventures internationales. Et vous y avez un portrait de la société internationale qui est tout à fait saisissant. Et qui d'ailleurs est très contemporain parce qu'il montre la gangstérisation du monde. Tintin a toujours affaire à des groupes criminels. Et ces groupes criminels sont un petit peu l'état profond, en quelque sorte. Et de ce point de vue, c'est une vision machiavélienne et très réaliste. Mais je dirais aussi que Tintin, c'est un phénomène de génération. Dans ma génération, tout le monde était aficionado de Tintin, tout le monde lisait Tintin. Et je me suis demandé si Tintin allait survivre. Il faut bien constater qu'aujourd'hui, il survit. Et par exemple, ma petite fille, qui a 10 ans, eh bien, elle m'a demandé de lui offrir des albums de Tintin. Et je trouve ça extrêmement intéressant, d'une part parce que c'est vraiment une autre génération, d'autre part parce que c'est une fille. Et que Tintin, ça a été longtemps considéré comme une affaire de garçon. Et donc, on voit qu'il a pris une sorte d'universalité, au moins en Europe, parce qu'il n'a jamais pénétré aux États-Unis. Ça a été le grand regret, en quelque sorte, d'Hergé, c'est de ne pas pouvoir pénétrer aux États-Unis, où il y a vraiment une culture différente, et où même la culture de la bande dessinée, qui est très, très vivante, est différente de ce qu'elle est en Europe.
Alors, concernant Tintin, ce qu'on perçoit dans les cases et les dessins, c'est que, vous l'avez dit, on vit dans un monde complètement déréglé. Enfin, les aventures de Tintin se passent dans un monde complètement déréglé. La puissance publique est quasiment absente. Et quand elle l'est représentée, elle l'est représentée de façon ridicule et dérisoire.
Oui, surtout l'armée.
L'armée, la police aussi.
Et la police, oui, enfin tout ce qui est contrainte, tout ce qui est coercition. Alors ça peut correspondre, si vous voulez, au tropisme belge. Parce que la Belgique, c'est un petit État, et on voit bien qu'il y a une certaine dérision à l'égard des grands États, ou des États qui veulent se prétendre grands. Et donc, c'est un petit peu le côté guignol qui se moque du gendarme. Il y a cette dimension-là, et qui est une dimension plutôt belge que française,
de ce point de vue-là. C'est propre à l'état politique. Vous dites aussi, toujours à propos des aventures de Tintin, que si le droit est en arrière-plan dans beaucoup d'albums, il n'est jamais abordé vraiment frontalement. Est-ce qu'on pourrait se dire que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de ressort a priori intéressant à la dramaturgie
Alors,
du droit ?
Voilà, le problème, c'est que la dramaturgie du droit, elle est tout de même très faible. On ne va pas consacrer une série, ou alors ça sera pour un public assez restreint, à des histoires notariales.
C'est très technique, au final.
Voilà. Alors, il peut y avoir des énigmes tout à fait intéressantes en matière de succession, par exemple. On peut voir qu'il y a toute une série de difficultés, de conflits, de compétitions qui naissent à propos d'une succession contestée. Mais bon, ça touche un public assez restreint. Et là, la dramaturgie la plus forte, c'est dans le procès. C'est dans le procès, mais le procès à l'américaine. C'est-à-dire où vous avez l'égalité des parties et où vous avez une procédure accusatoire où les parties se disputent devant le juge qui reste impassible et qui ne pose pas de questions. Ce sont les jurés qui posent des questions. Donc là, vous avez des éléments d'une dramaturgie très forte.
Dans ce monde des aventures, il faut plus compter sur soi, au final, sur les héros, que sur l'État pour s'en sortir. Est-ce que vous pensez que c'est aussi vrai dans la réalité, dans notre monde d'aujourd'hui ?
Non, je ne le crois pas, parce que je crois que le grand ressort des relations internationales, ça reste l'État. Ça reste l'État et son système juridique. C'est tout de même la rationalité concrète, si je puis dire, l'État. Alors, c'est une rationalité qui peut parfois être défaillante, parce que ce qui est rationnel peut être déraisonnable. Il ne faut pas confondre ce qui est rationnel et ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable y ajoute une touche de sagesse, une touche d'équilibre, alors que le rationnel peut vous conduire à l'extrémisme et au totalitarisme. Et Tintin, de ce point de vue, est un personnage très raisonnable. Il n'est peut-être pas toujours rationnel, mais il est raisonnable.
Il a un comportement exemplaire, vous dites.
Oui, c'est un chevalier. C'est un chevalier, son idéal est un peu moyenâgeux, si on peut dire. Mais là encore, vous voyez, on trouve quelque chose de belge, c'est-à-dire, ça n'est pas le culte de l'État. Et la Belgique, c'est un État un peu fragile, qui a un État récent. Ça n'est pas la France, ça n'est pas le Royaume-Uni, où là, vous avez une culture très enracinée. Si vous enlevez l'État en France, il ne reste rien. La Belgique, d'une certaine façon, elle vit un petit peu sans État, parce que vous remarquerez qu'il y a quelques années, elle a pu vivre un an sans gouvernement, parce qu'il y a toute une série de structures dans la société, de structures sociales qui, au fond, sont plus importantes que les institutions publiques.
Donc il n'y a pas d'État, en fait, c'est une vision du monde profondément individualiste qui nous est donnée dans...
Individualiste, mais il y a aussi des groupes. Il y a aussi des groupes. Et par exemple, si vous prenez les bijoux de la Castafiore, vous avez le groupe des Roms, qui est une société primitive, mais qui est profondément respectée par Tintin. Et de la même manière, dans le Temple du Soleil, on fait l'éloge des Incas, qui ont réussi à garder leur structure, à garder de façon souterraine, malgré la colonisation, leur identité. Et donc, vous avez à la fois ce culte de l'individu, mais aussi ce respect pour les traditions. Alors ça peut renvoyer d'ailleurs à l'ethnographie des années 30, où on découvrait ces sociétés, Lévi-Strauss, et il fallait les respecter. Il ne fallait pas prétendre à tout prix leur faire accepter nos valeurs, mais il fallait respecter ce qu'elles étaient. Et de ce point de vue, Tintin est un petit peu un disciple de Lévi-Strauss.
On dit souvent des albums de Tintin qu'ils portent en eux une vision assez anticommuniste, en pointant par exemple les illusions révolutionnaires. Vous dites que c'est plus compliqué que ça.
Oui, c'est antitotalitaire. C'est antitotalitaire parce que si vous prenez par exemple le sceptre d'Ottokar, ce qui est dénoncé là dans le sceptre d'Ottokar, c'est aussi bien Mussolini qu'Hitler. D'ailleurs, le dictateur qui vise à prendre le contrôle de la Sildavie se nomme Mustler. Et c'est un mélange Mussolini-Hitler. Donc je dirais que, bien sûr, il y a l'anticommunisme qui est surtout très présent dans Tintin chez les soviets. Mais de façon générale, c'est tout de même l'antitotalitarisme qui domine. Et de ce point de vue, Tintin, il est imprégné des valeurs individualistes et aussi des valeurs chrétiennes. Même si Dieu est absent. C'est très curieux, Dieu est totalement absent des aventures de Tintin.
Où est-ce qu'on les retrouve, ces valeurs chrétiennes, exactement ?
Eh bien... la loyauté, l'altruisme, le dévouement, le souci des faibles, le souci de porter aide aux faibles et de se méfier des forts, tout ça, c'est tout de même un petit peu l'enseignement qui résulte du christianisme.
Puisque nous parlons de Tintin et de la BD, un mot plus général sur ce format qui est la bande dessinée. Dans le livre, vous faites le constat qu'on lit de moins en moins de BD pour s'amuser, C'est tout à fait vrai. Si on regarde les grands succès des dernières BD parues, beaucoup servent à informer, à vulgariser auprès du grand public. Par exemple, le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean Covici, qui a été le plus grand succès de bande dessinée de l'année dernière. Mais il y a plein d'autres exemples de BD qui introduisent à la philosophie, à la littérature. Est-ce que vous considérez que c'est un nouveau format qui doit être considéré comme un outil d'apprentissage, d'éducation à part entière ?
Ah, je crois que ça peut l'être. Je crois que ça peut l'être. Mais de ce fait, la BD perd un petit peu de son caractère récréatif, de son caractère qui nourrit l'imagination et qui donc relève de la culture générale et relève de l'élévation de l'esprit. Si ça devient de la formation, il y a quelque chose d'un peu triste. Et je trouve que les BD actuelles, que je lis très peu, sont vraiment tristes. Mais c'est un peu le reflet de l'époque. L'époque est assez triste. C'est plutôt des valeurs sombres qui sont aujourd'hui à la mode. Et de ce point de vue, je préfère nettement la
BD classique.
Enfin, c'est ma génération, voilà. C'est celle de ma génération, c'est celle de ma jeunesse. Je dirais qu'il y a quelqu'un dont je ne parle pas dans ce livre, mais qui mériterait, qui est dans un purgatoire profond aujourd'hui, mais qui mériterait une grande attention, c'est Gérard Lozier. Et Gérard Lozier, il a été un petit peu le point de passage entre la bande dessinée pour enfants et adolescents et la bande dessinée pour adultes. Et c'était très, très cruel. Avec un très cruel et un monde totalement déréglé, totalement livré aux passions, avec un cynisme assez fort. Et je pense, par exemple, il y a deux grandes œuvres, deux grandes BD qui sont d'un côté La course du rat, et qui est un grand roman, c'est vraiment l'équivalent des grands romans du 19e, et puis La tête dans le sac. Et les deux racontent l'itinéraire d'un héros qui croit qu'il est autre chose que ce qu'il est, et qui donc se perd. Et ça rappelle un peu la morale de Marcel Aimé. Vous savez, Marcel Aimé, c'est l'auteur de Travelingue, c'est l'auteur de La Jument Verte. Et son thème général, c'est « On est ce qu'on est, il ne faut pas chercher à sortir de sa condition, ça vous expose à des déboires ».
Alors, il n'y a pas que les auteurs de BD. D'ailleurs, dans ce livre, vous parlez également de cinéma. Vous faites de nombreuses références cinématographiques.
Oui, c'est même la majorité des textes.
Hein. Oui. Et ces références cinématographiques sont très variées. Ce qui est frappant, c'est que vous vous basez donc à la fois sur des œuvres cultes, par exemple Plein Soleil, qui fait la couverture du livre, un film de René Clément et avec Alain Delon, un autre film de John Ford, L'homme qui tue à Liberty Valence. Vous parlez des films de la Nouvelle Vague. Et à côté de ces films très connus, enfin que tout le monde connaît, il y a des films beaucoup plus confidentiels. Est-ce que c'était un choix volontaire de votre part de mélanger ces...
Écoutez, c'est un choix purement subjectif et qui est lié au plaisir que j'ai eu à voir ces films et à l'intérêt que j'ai eu à les regarder parce qu'ils me paraissaient riches de signification et que j'essayais de dégager leur signification, un petit peu comme à Millefeuille, vous voyez, on passe d'une signification à l'autre et pour moi, les films les plus riches sont ceux qui comportent le plus de signification et qui donc sont les moins linéaires, les plus riches en métaphores et de ce point de vue... Ça peut être des films pas très connus. Je pense par exemple à un film que je trouve qui est un chef-d'œuvre pour moi et qui est Rien sur Robert de Pascal Bolitzer. Pascal Bolitzer, cinéaste très intellectuel, qui a longtemps été scénariste et puis qui est passé à la réalisation. Et ce film, il est plein de sous-entendus, de hors-champ en quelque sorte. Et ce qui est intéressant pour moi dans le cinéma, c'est le hors-champ, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas montré, mais ce qui est là. Et par exemple, dans Rien sur Robert, qui est Robert ? Eh bien, Robert, c'est Dieu. Et il y a juste un élément qui permet de le comprendre, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va chercher un livre. D'ailleurs, c'est Pascal Bolitzer lui-même va chercher un livre à la librairie Compagnie. Et la vendeuse, qui est Sandrine Kiberlin, lui répond « Nous n'avons rien sur Desnos. » Robert Desnos. Desnos, Deus Noster. Et donc, vous avez là une espèce de petites indications un peu cryptées. Et j'ai écrit un article sur ce film. Je l'ai envoyé à Pascal Bolitzer, que je ne connaissais pas, et qui m'a dit « Oui, c'est ça ». Mais
vous aviez
ça juste... n'avait pas été repéré, en quelque sorte. Et mais après, je suis devenu ami avec Pascal Bolitzer et j'essaie toujours de décrypter les films qu'il...
Ça demande un travail assez actif, quand même, de la part du spectateur.
Disons que c'est des films qui sont stimulants. C'est-à-dire qu'on ne les regarde pas d'une façon passive, mais on a, il suscite la réflexion et le plaisir qu'on a se trouve démultiplié par le fait qu'on va leur trouver des significations différentes. Et je dois dire que pour ça, le développement des DVD a été essentiel. Parce que quand vous avez un DVD, vous pouvez le regarder, arrêter, revoir telle ou telle scène. Donc vous pouvez vraiment vous pouvez en faire l'autopsie, en quelque sorte. En faire le démultiplier. Et puis vous bénéficiez des bonus. Et en général, les bonus vous donnent des éclaircissements
avec sur les making-of,
tel ou tel aspect. Etc. Donc le DVD a considérablement enrichi la culture cinématographique. Et moi, je considère que le cinéma est un outil culturel fondamental. C'est la littérature du XXe siècle. Après Proust, après Céline, on ne peut pas dire qu'il y ait une littérature qui vraiment s'impose. Et en revanche, le cinéma a apporté...
Il fait partie de notre patrimoine culturel.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, il faut parler quand même des États-Unis, puisque le droit est très présent dans la culture américaine, dans les films aussi, plus qu'en France, vous trouvez ?
Oui, parce que les États-Unis ont dû construire... Le pays s'est construit avec le droit. Et par exemple, un film comme Liberty Valance explique très bien comment le droit va pénétrer dans l'Ouest.
Comment
dans
on l'Ouest passe de profond. L'état de nature
Comment on passe de l'état de nature à l'état de droit. Et là, il y a donc un phénomène de naissance du droit et de développement et d'emprise croissante du droit qui est très, très, très intéressant et qu'on trouve spécialement dans le western. Parce que le western, c'est la Bible. C'est la Bible et donc... c'est la nature humaine et l'homme, l'individu seul face à Dieu. Et rien n'illustre mieux d'ailleurs l'individualisme que le cinéma américain, parce que vous voyez toujours le héros qui finalement est abandonné. Abandonné par l'État, abandonné par les institutions, abandonné par le droit et abandonné par les siens, qui se retrouve seul. Et il est seul face à quoi ? Face à l'adversité, d'une certaine façon, face à Dieu. C'est Job sur son fumier. Et finalement, il s'en tire. Un exemple... tout à fait révélateur de ça, c'est La mort aux trousses. Vous voyez le personnage qui progressivement perd tous ses appuis, perd tous ses soutiens. Et puis en définitive, il apparaît qu'il est soutenu. Alors là, on pourrait dire, et c'est le côté européen d'Hitchcock, qu'il va être soutenu par l'État parce que les services secrets le reprennent en main. Et finalement, il l'emporte. Mais il a quand même agi tout seul. Et donc c'est toujours l'homme face à Dieu, face à sa conscience.
Pour parler à nouveau de Liberty Valance, pour le recontextualiser, donc c'est un film qui est sorti en 1962 de John Ford, oui. Mais l'intrigue se déroule au tout début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle.
Oui, fin XIXe, début XXe.
Du XXe siècle. Et effectivement, c'est un film très intéressant à analyser, puisque d'un point de vue juridique et institutionnel, il est extrêmement riche. L'histoire se passe au moment où la démocratie s'installe au fur et à mesure,
oui.
Avec l'importance de la figure des pères fondateurs qui sont présents à travers les personnages du film.
Oui, 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 oui. D'ailleurs, à un moment, il y a le portrait de Lincoln.
Exactement.
On aperçoit le portrait de Lincoln, oui.
Au fil des décennies, le regard des réalisateurs sur la démocratie américaine a changé. Vous dites qu'on est passé de l'illusion de la démocratie à une forme de désenchantement. C'est particulièrement le cas pour les derniers films américains.
Écoutez, je crois, et c'est d'ailleurs conforté par les séries télévisées. On voit de plus en plus la violence, le fait que l'État n'est qu'une apparence.
Le complotisme aussi.
Le complotisme. Et je ne sais pas, prenez Les Trois Jours du Condor, qui est un film qui a eu un grand succès avec Robert Redford. Voilà. Et là, il est en butte à un complot intérieur de la CIA. Lui-même est de la CIA. Il est en butte à un complot intérieur de la CIA qui va devoir dénoncer, qui va devoir mettre à jour. Ou alors Les Hommes du Président qui montrent les complots qui sont menés par l'administration Nixon. Ou encore Des Hommes d'Influence, où là, on voit la manipulation d'un président qui pourrait échapper à des problèmes qui le mettent en cause gravement, provoque un conflit à l'extérieur. Et il est guidé par des... conseillers qui organisent le conflit et qui le montent totalement jusqu'à fabriquer. Il y a notamment une scène qui est très drôle où on veut nous montrer une jeune fille au milieu des ruines qui fuit avec son chat et qui tient son chat comme ça. Alors c'est censé évidemment émouvoir les populations et on discute longuement de la couleur du chat. Et il est préférable qu'il soit blanc plutôt que noir, etc. Et donc on voit comment tout ça est manipulé. Donc vous voyez, l'État est la source de complot. Et effectivement, ça...
C'est une vision assez noire des choses. On parle souvent d'une américanisation du droit. qui serait donc un produit de la mondialisation. Alors peut-être expliquer en deux mots ce que c'est l'américanisation et est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer, enfin nous dire si selon vous le cinéma américain participe à cette américanisation?
Oui, le cinéma y participe indiscutablement parce que c'est vraiment un grand ressort de l'influence américaine. L'influence américaine et la puissance américaine, elle doit beaucoup à l'imaginaire, elle doit à la manière dont les États-Unis projettent leur image. Parce que les États-Unis, ça n'est pas New York. Et ce qui caractérise les États-Unis quand vous y allez, l'Amérique profonde, c'est l'ennui, c'est le vide. C'est l'ennui, c'est le vide culturel. C'est quelque chose, c'est une société primitive. Et plus la technologie, société primitive, plus la technologie. Mais l'image qui est projetée, c'est le village brillant sur la colline, c'est la lumière qui guide le monde entier. Et de ce point de vue, l'image du droit est très favorable. Le procès américain, la procédure accusatoire. Maintenant, spontanément, les gens disent « Oui, votre honneur ». Mais ça ne se dit pas du tout dans
parce
la procédure.
Parce qu'ils regardent trop voilà. Les séries américaines, justement.
Ils regardent trop les séries américaines. Alors, vous avez deux grands canaux, concrètement, de la diffusion du droit américain. D'une part, c'est le « business law », c'est-à-dire le droit des affaires. Où là, les Américains, bon, ils sont très, compte tenu de la puissance de leur multinationales, sont extrêmement conquérants et s'efforcent d'écarter partout le droit européen. Et ça se traduit par des conventions internationales où finalement, on va appliquer de préférence le droit américain. Et puis, le droit criminel, le droit pénal, où là, il y a eu de grands efforts pour développer la procédure accusatoire. Et si vous prenez, par exemple, la Cour pénale internationale, toutes les juridictions pénales internationales, on applique la procédure américaine. Alors même que les États-Unis ne sont pas partis. Vous avez le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Les États-Unis ne sont pas partis. Ils combattent même cette Cour, parce qu'ils ne veulent surtout pas que des ressortissants américains puissent être poursuivis sur le plan international. Mais on applique quand même la procédure accusatoire qui est la procédure américaine. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques années, en France, à l'époque du mandat du quinquennat Sarkozy, il avait été question de supprimer le juge d'instruction et d'aboutir à une procédure accusatoire.
Similaire à
la procédure américaine. Ce qui renforce considérablement le rôle des avocats. Évidemment, le lobby avocat en France, qui est puissant, voulait pousser pour ça. Et finalement, ça n'a pas été fait, et à mon avis, fort heureusement, parce que le résultat, c'est une inégalité profonde des justiciables devant la justice. Parce que vous avez des accusés riches qui peuvent payer des avocats talentueux et qui arrivent, grâce à la procédure, à se tirer d'affaires. Et puis vous avez des accusés pauvres qui sont mal défendus et qui, eux, alors, prennent plein pot toutes les peines les plus lourdes. Donc il y a une très, très profonde inégalité de la justice aux États-Unis.
Vous évoquez dans ce livre également le conflit russo-ukrainien à travers un film. Donc, ce film est peu connu, il est sorti...
Ouragan sur le Kain.
Ouragan sur le Kain, oui. Un film sorti en 1954 avec Humphrey Bogart.
Oui, c'est notamment le meilleur rôle d'Humphrey Bogart.
Et donc c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui revient sur un épisode totalement imaginaire, un épisode maritime imaginaire. Et vous faites le lien avec l'agression de la Russie en Ukraine.
Oui, alors ça peut paraître tiré par les cheveux, mais en réalité, quand j'ai revu ce film il n'y a pas très longtemps, ça m'a sauté aux yeux.
Il faut nous expliquer la métaphore.
Oui, parce que le Kain est un dragueur de mines, un navire assez secondaire, et qui est commandé d'une façon très relâchée par un commandant qui est gentil, et donc tous les marins se promènent, bon, ils ne font pas grand-chose. Arrive un nouveau commandant qui veut reprendre les choses en main. Et il le fait avec une certaine brutalité. Il est conduit à se heurter à ses officiers, et ceux-ci résistent. Non pas qu'ils soient contre le fait qu'on applique la discipline, mais ils trouvent que, voilà, il faut rester précisément, pas seulement rationnel, mais aussi raisonnable. Il faut savoir, quand vous gérez des hommes, il faut savoir ne pas les humilier. Il faut savoir les traiter, bien sûr, ils doivent respecter les règles, mais il faut savoir aussi communiquer avec eux. Et pas simplement d'une façon entièrement verticale, surtout lorsqu'on est à la guerre et qu'ils risquent leur vie. Et donc, les officiers sont très en garde contre ça. Et à un moment donné, il s'en rend compte, le commandant, et il tente de les amadouer. Il leur dit, écoutez, mon chien m'aime, je sais que je peux avoir des côtés un peu déplaisants, mais voilà, nous devons tous agir ensemble. Et ils restent sur leur corps. Ils ne disent rien. Donc l'hostilité est marquée. À partir de là, il va devenir paranoïaque. parce qu'il pense qu'il se heurte à une hostilité générale du bateau, du navire, de l'équipage, et donc il devient paranoïaque jusqu'à faire beaucoup d'erreurs de navigation.
On devine la figure de Poutine.
Voilà. Et finalement, le second, c'est une mutinerie, le second le dépose et prend le commandement du bateau. Alors évidemment, après, mutinerie en temps de guerre, c'est puni de la peine de mort, donc il passe en cour martiale. Et évidemment, il les charge, lui, il les accuse, les charge. Et un avocat va les défendre et arriver à démontrer que le type est paranoïaque. Et c'est la scène où on voit Humphrey Bogart passer d'un comportement tout à fait rationnel à un comportement délirant, qui est le tournant du procès, est une très belle scène. Et là, Bogart est vraiment un très grand acteur. Et donc, je fais le parallèle...
Avec le président des États-Unis, notamment.
Ce capitaine qu'on a rendu paranoïaque et Poutine, qu'on a mis dans une position telle qu'il ne pouvait pas faire autre chose.
Le film, les BD que vous citez, couvrent une période qui s'étale à peu près des années 30 jusqu'aux années 2010. On l'a plus ou moins déjà évoqué avant, mais depuis quelques années, la créativité audiovisuelle s'exprime aussi à travers donc,
les séries
qui soulèvent tout de même des enjeux politiques, géopolitiques assez brûlants. Je pense au Bureau des légendes, Je pense à Black Mirror, La Servante écarlate. Pourquoi ne pas avoir intégré ce format dans ce livre ?
Alors, j'aurais pu, mais alors, les séries, d'abord, c'est un monde foisonnant. Hein. Quand vous voyez Netflix, quand vous voyez Prime Video,
c'est une économie
à part
entière.
Énorme. Et donc, ça implique une sélection, ça implique un certain recul, parce que tout ça, ça demande de la maturation. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme ça. Et donc, si j'y vivais assez longtemps, il est possible que je le fasse, c'est possible. Mais il y a toujours, à mon avis, dans les séries, quelque chose d'un petit peu décevant, parce que ça ne finit pas. Et prenez...
Comme le chewing-gum que vous
disiez. Oui, c'est ça, c'est le chewing-gum. Ça perd son goût, ça perd son attrait, et puis finalement, on s'en débarrasse, quoi. Voilà. Regardez Desperate Housewives, c'était une très bonne série. Eh bien, ça s'est perdu un peu dans les sables. On voit bien qu'à un certain moment, les scénaristes n'ont plus d'imagination.
Souvent, il y a la saison de trop.
Il y a une saison de trop, voilà. Et après une saison de trop, ça disparaît. Et donc, d'abord, c'est beaucoup plus long qu'un film. Et vous voyez la quantité d'œuvres qu'il faut absorber. C'est un univers extraordinairement foisonnant, extraordinairement vivant. Et c'est un peu la forêt vierge, en quelque sorte. Hein, alors que le cinéma, il a des contraintes, il a des codes. Et ça, vous pouvez les décrypter. C'est un peu comme un jardin à la française.
Et, c'est plus classique.
C'est classique. Et le monde de des séries, c'est quand même vraiment la forêt vierge. Et il faudrait y aller avec un coupe-coupe. Là, pour le moment, c'est pas trop mon truc.
Et à titre personnel, sur les séries, ça vous arrive d'en regarder quand
même ? Je regarde beaucoup. Je regarde à l'heure actuelle plus que le film.
Lesquelles, par exemple ?
Eh bien, j'ai regardé assez récemment The Crown. Très bonne série.
Sur
je
le
trouve
règne
d'ailleurs
d'Elizabeth.
Les séries britanniques sont les meilleures, je trouve. Hein. Elles sont vraiment très très bien faites. Très soigneuses dans leur décor, dans leur costume. Et des acteurs remarquables. Des acteurs qui ont été formés à l'école shakespearienne et qui sont de très grande qualité, qui sont souvent des gens qui viennent du théâtre.
En tout cas, ce sont des productions extrêmement bien soignées avec des budgets
qui sont très souvent plus
conséquents.
Et des scénarios qui sont très bien, finement réalisés. Et donc, je trouve qu'à l'heure actuelle, les meilleures séries sont les séries britanniques. Il y a aussi de bonnes séries belges, mais qui sont des séries un peu plus surréaliste, c'est-à-dire que...
Vous pensez à laquelle, par exemple ?
Écoutez, je n'ai pas de titre immédiat, parce que le problème de la série, c'est qu'une fois que vous l'avez regardée...
On l'oublie vite et on passe à autre chose.
On l'oublie rapidement et on en cherche... C'est un peu comme une drogue. C'est un peu comme une drogue. On cherche la suivante et on cherche à retrouver le même type de stimulation ou de distraction. Mais après ça, on l'oublie.
Ouais,
et effectivement, si je fais un retour en arrière, je me dis, mais tiens, j'ai vu ça. Et puis, qu'est-ce qui m'en reste ? Rien.
Pour finir, Serge Lecure, je voulais parler de l'enseignement. Quelle place ont le cinéma et la BD dans vos séminaires, dans les cours que vous proposez aux étudiants ?
Écoutez, alors ils ont une place relativement restreinte, mais je fais souvent des références à tel ou tel film dont je raconte en quelques mots l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour le sujet en question. Ça, ça m'arrive souvent. Mais ce que je constate, avec d'ailleurs une certaine tristesse, j'ai eu des étudiants qui avaient une vingtaine d'années, enfin, qui sont en master, donc ils ont entre 20 et 25 ans, grosso modo. Et ce que je constate, c'est une déperdition considérable de la culture cinématographique. Je vois des jeunes étudiants qui sont par ailleurs cultivés, intelligents, et bon, très bien, mais qui ne peuvent pas citer un film d'Hitchcock. Et pour qui le nom d'Hitchcock, c'est même quelque chose de nouveau. Alors ça, je le regrette beaucoup. Et je trouve qu'on devrait intégrer le cinéma dans la culture générale, dans la formation, au même titre qu'on le fait de la littérature. Parce que pour moi, c'est la littérature du XXe siècle. Et donc, faire visionner des films à des jeunes esprits, c'est d'abord un petit peu les distraire, un peu les amuser, mais en même temps, c'est les instruire. Donc, c'est l'élément de la culture. Je pense, par exemple, à un film qui s'intitule Le Sucre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un film des années 80, oui, ou début des années 90, de Jacques Rouffio, et qui est avec Depardieu, avec Jean Carmé, avec Roger Hanin, Claude Pieplus, Michel Piccoli, et qui décrit, mais de façon très analytique et très didactique, une spéculation financière. Et c'est vraiment un modèle de spéculation financière. C'est tiré d'une histoire vraie. Spéculation sur le sucre qui a ruiné pas mal de gens. Mais c'est Madoff. Donc vous avez là un modèle. Et pour moi, autant qu'un cours de finance internationale, vous regardez le sucre, vous avez tout compris.
Ce livre, finalement, il s'adresse à qui ? À vos étudiants en droit ou bien à un public de cinéphiles ?
Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais une fois qu'un livre est écrit, et pour moi qu'il est publié, il ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de son sort. Et je n'écris pas forcément pour un public. J'écris d'abord pour me faire plaisir, et puis si ça peut intéresser, très bien, j'en suis content. Mais l'important pour moi, c'est d'être publié. Alors là, je dois dire que je rends tout à fait hommage à Denis Kessler, qui était mon confrère à l'Académie des sciences morales, qui malheureusement
qui est décédé
il y a quelques semaines. Et c'est lui qui a pris ce livre, c'est lui qui l'a accepté pour les presses universitaires de France. Je crois qu'il était un grand éditeur, il a formé le groupe Humain 6, et je suis un petit peu inquiet sur le sort, parce qu'un tel groupe de presse, un tel groupe de publication, il lui faut vraiment quelqu'un qui ait une vision. Et je crois que lui l'avait. Sa mort est évidemment une grande perte sur tous les plans, mais aussi sur le plan éditorial. Et je voudrais terminer peut-être par rendre hommage à Denis Kessler.
Un grand merci, Serge Sûr, pour cette présentation qui, j'espère, donnera envie aux auditeurs de découvrir le livre et tous les chefs-d'œuvre du cinéma et de la BD.
Voilà, si ça peut donner envie de voir des films. À la limite, mon but serait atteint si je donnais à un certain nombre de lecteurs le goût de voir tel ou tel film qu'ils n'ont pas vu, à partir de cette analyse. Et les DVD existent.
Hein. Et pour le découvrir, donc, je rappelle le titre, Des images qui parlent, publié aux éditions donc, Presse universitaire de France, préfacé par Jacques Delarosière. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Canal Académie.